La maison Louis Drucker habille les terrasses parisiennes et celles du monde entier depuis 1885. Ça fait d'elle la plus ancienne fabrique artisanale de sièges en rotin français. Basée à Venette, à côté de Compiègne, c'est le calme de la région qui a attiré le créateur à l'époque. Ici, le savoir-faire et les manières traditionnelles ont été conservés au fil des années et nous allons découvrir l'histoire de cet atelier. Rencontre avec Bruno Dubois, qui a racheté la maison en 2006 alors qu'elle était sur le point de disparaître et qui a continué de faire vivre ce lieu.
J'ai repris la société Maison Drucker il y a maintenant 18 ans. Elle était très mal en point à l'époque. Nous avons travaillé dur depuis pour en faire une société aujourd'hui prospère et qui est maintenant et mondialement connue tout en restant très petite. Ce qu'on fait depuis le 19e siècle, des sièges, des fauteuils, essentiellement, on travaillait une matière qui s'appelle le rotin. Fin 19e siècle, on faisait tout en rotin. On a découvert ça avec les colonies. Ça faisait des meubles beaucoup moins chers qu'en bois. Et c'est un style de meuble qui est resté, qui est toujours, qui existait, qui a connu des hauts et des bas, et qui maintenant est vraiment sur un grand retour parce qu'il représente toute une tradition française et très largement parisienne. Le meuble en rotin est connu surtout par les terrasses parce qu'il n'avait jamais disparu des terrasses, il n'avait jamais trouvé de remplaçant. Parce qu'il est léger, il est robuste, il permet de faire des très beaux décors et on n'a pas trouvé de choses pour remplacer ça qui soit aussi décorative.
Alors, Maison Drucker, Maison Louis Drucker, qui c'est ? Qui est cet homme ?
Oui, Louis Drucker était le créateur en 1885. Il travaillait dans cet univers du rotin qui était très très à la mode. Il travaillait à Paris, dans le 19e, qui était un petit peu le côté industriel de Paris. Et il a été certainement le meilleur à son époque. Il était le plus créatif. Il était le numéro un. Aujourd'hui, il est le seul survivant du 19e siècle. Aucun autre n'a survécu.
Pourquoi est-ce qu'il a eu l'idée de se lancer justement dans le rotin ? Est-ce qu'au 19e siècle, c'était déjà populaire comme ça ?
Non, en fait, le rotin a pris la suite d'une technique qui existait depuis très longtemps, qui était les bois courbés. Les bois courbés, ça existait aussi du côté de Limoges, c'était surtout le châtaignier. Il y a beaucoup de châtaigniers du côté dans la Vienne. Et on travaillait les bois, les perches de bois, en les chauffant à la vapeur, et après ça, elles se pliaient. Donc les techniques qui ont été utilisées sur le rotin existaient déjà. Et ces techniques étaient surtout présentes dans les pays de l'Est. Et la famille Drucker était d'origine polonaise. Elle est venue de Pologne à l'époque où la Pologne a disparu avec tous les mouvements d'Europe de l'Est. Et c'était une famille de menuisiers qui faisaient les bois courbés. Et comme tout le monde, quand ils ont découvert le rotin c'était comme le bois courbé, mais beaucoup plus facile à travailler. Il suffisait de le chauffer, il se pliait très facilement, tandis que les bois courbés, il fallait laisser 48 heures dans la vapeur, ensuite il fallait les gros bras pour le plier. Donc le rotin, c'est quelque chose qui existait, une autre matière qui faisait les mêmes choses, mais c'est devenu tellement facile que tout le monde s'est mis à faire du rotin. Et les Drucker qui étaient dans le bois courbé se sont convertis au rotin. Ils ont été très nombreux à l'époque. Mais eux sont les seuls qui sont restés à l'histoire, sans doute parce qu'ils ont été les plus créatifs.
Donc le rotin plus facile à travailler, quelles sont les étapes de fabrication pour une chaise ?
Il y a beaucoup d'étapes parce que quand vous voyez le rotin, moi on m'a emmené dans la forêt à Bornéo. Et on m'a dit, bon, essayez de trouver le rotin. C'était une forêt. Eh bien, j'ai pas vu le rotin, moi. C'était des grandes plantes qui, en fait, sont des lianes très, très longues, qui peuvent aller jusqu'à 200 mètres, qui vont d'arbre en arbre, avec des grands piquants de 40 cm. Vous ne pouvez pas deviner que ça, c'est la matière première de ces grandes perches. Il faut couper tous ces piquants. Il y a un gros travail sur la perche. Elle est assez souple parce qu'elle a une sève qui est, bien sûr, liquide. Mais cette sève a une particularité, quand on coupe la plante, au bout de quelques semaines, elle va durcir et cristalliser comme du verre, des cristaux. Et elle devient totalement rigide. Quand on a coupé la plante, on la met bien droite, on la laisse sécher pour qu'elle devienne dure. Après ça, on la rechauffe pour pouvoir la corriger et en faire une perche bien droite. Mais il y a beaucoup de travail déjà. Bon. Nous, on reçoit des perches bien droites. On coupe ce qu'il faut, alors on les reçoit c'est des perches de tous les diamètres, il y a de 2 mm en 2 mm pour les différentes pièces. Ces perches, elles sont très rigides, on les met à la vapeur pendant une demi-heure, la sève se liquéfie, la pièce va se plier. Alors on a des moules, on a 200 moules ici pour toutes les pièces, on la met sur un moule, on va la laisser sécher 3 semaines pour que la sève recristallise et redurcisse la pièce. Donc ça, c'est toute la technologie, c'est de faire des pièces qu'on va mouler en quelque sorte et qui vont redurcir toutes seules.
Aujourd'hui, les chaises sont réalisées, comme je l'ai dit, plutôt en périphérie de Compiègne. Mais cette installation est toute récente et son histoire ne s'arrête pas là.
L'affaire est née à Paris en 1885, dans le 19e rue des Pyrénées. Elle a émigré en 1920 et quelques à Béthisy. Monsieur Drucker trouvait la capitale irrespirable, comme beaucoup de gens. C'est vrai que le 19e commençait à être envahi de petits ateliers qui polluaient beaucoup, où ça évoluait vers Montreuil, mais lui, il a préféré partir et venir dans la région. Il appréciait beaucoup la pêche à la truite et il venait les week-ends dans la région. Et ben, il venait pêcher du côté de Béthisy. Il a décidé de s'installer à Béthisy. Et dans la vallée de l'Automne, il existait autrefois, et ça a disparu il n'y a pas si longtemps que ça, énormément de vanniers. La vallée de l'Automne avait beaucoup de saules, ça poussait très bien, et l'osier, on le cueillait. Donc depuis, paraît-il, on m'a dit, le 7e siècle, et lui, il connaissait ça, il a pensé qu'il y aurait une certaine cohérence de travail entre les vanniers et lui, qui faisait des tissages avec une autre matière qui était le rotin, mais que les technologies étaient semblables. Il s'est installé à Béthisy. Il y a eu un incendie qui a tout détruit en 1980 et ils sont installés en catastrophe à Gillaucourt, à quelques kilomètres de là. Bon, c'était pas trop loin pour le personnel parce qu'il y a toute une technicité et ils ne pouvaient pas s'éloigner du personnel. Bon, nous avons quitté Gillaucourt parce que c'était beaucoup trop petit, qu'il fallait construire quelque chose de beaucoup plus grand et il n'y avait pas dans le coin d'emplacement de zone industrielle. Et on a trouvé ici un bel emplacement parce que Compiègne est une belle ville avec une belle histoire. On a trouvé que c'était cohérent avec la nôtre. Et bon, il y avait toutes sortes de commodités. Et pour tout le personnel, il n'était pas trop compliqué. C'était assez faisable de venir à Compiègne depuis Gillaucourt.
Et ici, toutes les chaises sont fabriquées de manière artisanale. Pas question de rompre les techniques traditionnelles. Les explications avec Bruno Dubois.
Il n'y a pas de machine, il y a zéro machine. Tout est fait 100% à la main. C'est comme ça. Et personne n'a réussi à inventer une machine permettant de faire quoi que ce soit. On tisse, on fait sur une chaise un tissu au lieu de croiser les fils avec une machine. Ça, on peut le faire pour du tissu, mais là, on ne peut pas. On croise les couleurs, mais eh bien, c'est des femmes qui font ça, les hommes le montent avec, autrefois c'était des clous, maintenant c'est des vis, c'est la seule chose qui a changé.
Il y en a beaucoup justement des fabriques de manière artisanale comme ça en France ?
Non, il reste 3 fabriques, on est je pense maintenant la plus importante, tout en étant petite, il y a l'atelier à moins de 40 personnes. Il y en a une autre qui est à côté de Nemours, et une encore plus petite, très très artisanale, qui est du côté de Limoges. Bon, mais qui est plus anecdotique, c'est une toute petite marque. C'est nous qui avions, par rapport à toutes les marques, le portefeuille de modèles de très 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 loin le plus important. On a au moins 10 fois plus de modèles que les autres. Et puis du coup, tous les décorateurs, les créateurs, les designers parisiens, c'est avec nous qu'ils font des nouveaux modèles. Et ils nous emmènent dans le monde entier. Sur les 3 dernières années, on a envoyé des modèles dans 70 pays, plus de 70 pays.
Qu'est-ce qui attire autant là quand je regarde à côté de nous ? Donc pour les auditeurs qui ne voient pas, on a pas mal de chaises très colorées autour de nous. C'est cette couleur qui attire ?
Oui, alors on vend des sièges, mais on vend aussi de la couleur parce qu'on tisse avec des couleurs qui sont vives. On peut faire... Alors, on a des jacquards, en quelque sorte, qui sont des croisements différents. Vous voyez une énorme différence entre tous ces modèles. Ça permet une très grande diversité de décors et de mélanger des couleurs de façon quasi infinie. Et puis c'est en même temps très robuste et très rustique. Ça permet de mettre beaucoup de couleurs dans des endroits où on a besoin de choses pas fragiles. Et ben, dans les hôtels, ils adorent mettre nos produits pour ça parce qu'ils sont très décoratifs, ils sont pas fragiles. Certains sont des choses extrêmement élégantes. On a gardé les plus belles des choses des 140 ans depuis l'origine. Et ben, les décorateurs, les cabinets de décoration pour les grands hôtels, ils adorent trouver des produits. On a toujours une place chez eux. Et nous travaillons avec tous les plus grands décorateurs de Paris, de Londres et même de New York.
C'est eux qui choisissent justement les couleurs à mettre sur les chaises ou c'est vous qui mixez? Comment ça se passe?
Ah, c'est toute une alchimie très compliquée. On a plus de 50 types de tissage. On a des couleurs, on en a une cinquantaine. Et sur notre site, on peut déjà faire des simulations de tous les tissages avec toutes les couleurs. Alors ça les aide. Et puis, quand ils ont bien mis au point leur choix, alors c'est quelquefois long, quelquefois il y en a qui font des mélanges de couleurs, on se dit, oh là là, ça nous semble un petit peu osé. Mais quand on le voit dans l'ensemble, souvent c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors justement, la couleur en elle-même est un élément très très important. On vend des sièges et de la couleur.
Les futurs projets de l'entreprise maintenant, c'est quoi?
C'est de continuer à créer sans relâche. Nous sommes à l'écoute de tous les grands cabinets décoration, des plus grands créateurs de Paris avec qui on travaille. Et on adore qu'ils nous demandent des nouveaux modèles, modifier des modèles. Il y a des demandes qui nous parviennent aussi de jeunes créateurs. Parce que, bon, une des choses qui caractérise, ce n'est pas la seule, mais c'est peut-être la principale, c'est les terrasses parisiennes. Et à l'étranger, tous les étrangers qui sont venus à Paris sont tous bluffés par les terrasses parce que ça n'existe pas dans les autres pays au monde. C'est Paris, il y en a un petit peu en Espagne, oui, il y en a aussi en Italie, mais beaucoup moins qu'à Paris. Et ça marque, tout ce qui vient de Paris s'exporte bien. La mode parisienne, elle marque quand même beaucoup le monde et ben nos chaises aussi.
Pour se procurer une chaise, il faudra compter entre 274 euros pour la moins chère et plus de 2000 euros l'unité pour la plus onéreuse. Louis Drucker, créateur de chaises artisanales depuis 1885, un reportage d'Axel Corby pour Radio Graphite.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.